France Musique.
Clément Rochefort, Les Grands Entretiens, France Musique.
Je m'appelle Frédéric Lodéon, je suis né le 26 janvier 1952 dans le 14e arrondissement de Paris. J'ai été violoncelliste, je suis toujours chef d'orchestre et producteur délégué à Radio France.
Merci d'être avec nous, Frédéric Lodéon, pour cette semaine de grands entretiens au cours de laquelle on va évoquer votre vie, votre carrière, votre parcours, vos souvenirs de musicien. On va vous passer au scanner, Frédéric Lodéon, tout au long de la semaine. Alors, on va commencer par le début de votre vie, c'est-à-dire votre naissance. Vous êtes né de parents martiniquais, mais vous avez grandi, vous, en métropole. Comment ils sont arrivés d'ailleurs, vos parents en métropole ?
Mon père, qui devait être avocat en principe, comme son propre père, son grand-père, il est venu à Paris après la guerre sur un bananier, un bateau en pleine tempête. C'est assez romantique parce qu'il voulait faire de la musique contre l'avis de ses propres parents. Donc il s'est inscrit à la fac de droit quand même, un peu, et puis il y est allé assez peu. Et surtout, il a pris des leçons avec Madame Descave, il a pris des leçons de piano, il voulait entrer au conservatoire. En fait, il a été pris à la direction d'orchestre, il est entré chez Louis Forestier, puis ma maman, martiniquaise aussi, elle est venue de Fort-de-France, puis ils ont eu beaucoup d'enfants. Et on a vécu d'abord à Paris, dans la banlieue parisienne aussi, dans des endroits qui n'étaient pas formidables. Et ensuite, dans des HLM qui sont toujours là, toujours bien visibles, porte de Saint-Ouen. D'abord, une barre d'immeubles en briques rouges, et puis ensuite, des grands HLM gris qui sont là, devant le périphérique. À l'époque, il n'y avait pas de périphérique, c'était les terrains vagues. Et puis voilà, et puis un jour, on vivait difficilement, il y avait beaucoup de gosses, on a été 6 enfants, hein, assez rapidement. Un jour, mon père a passé un concours et il est allé à Saint-Omer, il a remporté un petit concours pour une petite école de musique qui a bien grandi maintenant, d'ailleurs. Et ça a été le paradis, parce qu'à Saint-Omer, de nouveau HLM au début, mais après, on a pu avoir une maison donnant sur un boulevard Vauban, je me souviens, il y avait des bagnoles. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un parc très beau, et surtout, j'ai découvert le violoncelle à Saint-Omer, parce qu'il y avait un professeur là. Mes frères et sœurs ont été aussi affectés à des classes. Mon grand frère a joué du violon, ma sœur Corinne a joué du piano, et puis moi, comme j'étais assez sérieux à l'époque, et puis j'étais un peu timide, ma mère a dit, tu vas aller chez le professeur qui est un peu dur, monsieur Albert Tétard, ce qui a fait sourire un petit peu au début, mais quand on était dans sa classe, on souriait moins, parce qu'il était très très dur, c'est vrai, et il avait raison d'ailleurs, et parce que j'étais donc sérieux et apte à supporter une discipline un peu ferme, ce que pensait ma mère, et deuxièmement, très belle pensée maternelle, elle disait, comme tu es timide, tu seras caché par ce gros instrument, tu auras moins peur quand tu iras jouer parce que tu seras caché par ce gros instrument.
Juste encore un mot sur la Martinique. Est-ce que vous y alliez quand vous étiez enfant et vous emmenaient vos parents ?
Non, on n'avait pas assez de sous pour aller à la Martinique comme ça. Et c'est plus tard, c'est quand je suis devenu violoncelliste, que je suis allé pour la première fois jouer avec l'ensemble instrumental de Grenoble qui avait ses entrées à la Martinique. Stéphane Cardon, le chef, avait d'ailleurs une compagne martiniquaise. Et bon, l'orchestre allait, on m'engageait comme soliste parce que après Saint-Omer, mon père a été nommé en 68 directeur du conservatoire de Grenoble. Et donc j'ai fréquenté Grenoble, je venais pendant les vacances. Moi, j'étais déjà au conservatoire de Paris, mais je venais en vacances à Grenoble et on s'est connus comme ça. Et je suis allé à la Martinique pour la première fois avec l'orchestre ensemble instrumental de Grenoble. Et puis je suis retourné après comme violoncelliste, j'ai moi-même amené un orchestre pour faire des concerts à la Martinique et à la Guadeloupe. Il y a d'ailleurs eu un beau cyclone à ce moment-là. C'était assez sportif, il faut bien dire. Et puis, j'y allais toujours pour travailler. Moi, je n'aime pas bouger pour me promener. Ça, c'est une des grandes bases de ma vie. Je veux bien voir un beau paysage, revoir mon pays d'origine. Bien que je sois un parigot, vraiment fleur de bitume, on peut dire, le 14e. C'est même la clinique du docteur Pinard, je suis ce qui était une sorte de prémonition du destin. En tout cas, c'est une très bonne clinique qui existe toujours. Et j'ai adoré Paris. Moi, je suis vraiment un parigot. J'ai pris le métro à l'âge de 5-6 ans tout seul. Je me souviens très bien. On faisait le tour de Paris avec mon grand frère en PC, la petite ceinture, au lieu d'aller à la messe. Parce que les parents nous donnaient quelques sous pour la quête à l'époque. Et puis, on faisait le tour de Paris avec ça, où on achetait des pétards pirates pour embêter les vieilles dames avec leurs chiens dans les terrains vagues avoisinants. La porte de Saint-Ouen. On n'a pas été toujours très sages, mais bon, à Saint-Omer non plus, parce qu'à Saint-Omer, il y avait quand même aussi beaucoup de tentations, ce que les parents appelaient des voyous, c'est-à-dire les petits gars qui traînaient dans la rue, qui n'allaient pas beaucoup à l'école, et puis nous, on était bien avec ces petits gars aussi. Et puis, j'ai découvert en plus à Saint-Omer la pêche. Alors la pêche, je ne sais pas pourquoi, j'avais ça dans le sang depuis longtemps, depuis tout petit à Paris. Ça vient d'un oncle de la Martinique, mon oncle Henri, cousin de mon père, qui était un grand, grand pêcheur à la mouche, et qui très jeune m'a donné le virus, mais à Paris, je pouvais pas faire grand-chose. La Seine était bien plus abîmée qu'aujourd'hui. Et puis j'achetais des revues, La Pêche et les Poissons, et tout ça, et toute la pêche. Et puis quand je suis arrivé à Saint-Omer, j'ai vu cette fameuse rivière, l'AA, le fleuve côtier AA, qui fait le bonheur des cruciverbistes, parce que c'est vraiment deux lettres comme ça, et puis le petit canal qui est à côté, et puis toutes les possibilités, Clermarais, les étangs, tout ça. Alors là, je suis devenu fou d'amour pour la pêche, ce qui m'a valu quelques engueulades de mon prof de violoncelle, parce que quelquefois, je travaillais pas assez le violoncelle au profit de la pêche au gardon, à la blette, à l'anguille, à la carpe et à la brème.
Parigot pur jus, Frédéric Lodéon. D'ailleurs, il y a une question qu'on se pose souvent. Est-ce que votre nom de famille, Frédéric Lodéon, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'Odéon à Paris, le quartier, le théâtre de l'Odéon?
Oui, avec le théâtre en tout cas, puisque ce qu'on dit dans la famille, c'est pas vérifié bien sûr, mais enfin, c'est que je serais descendant d'une dame qui aurait travaillé au théâtre de l'Odéon. Il y avait des tournées à l'époque. Donc la troupe de l'Odéon était allée à la Martinique. Cette dame aurait été enceinte d'un monsieur. Alors certains disent que ce serait carrément Alexandre Dumas père, et que cette dame aurait été Marie Dorval, une grande tragédienne. Et il y a beaucoup de Dorval dans ma famille. Alors ça, c'est un mystère aussi, mais peut-être que c'est ça. Moi, j'ai jamais eu le temps de chercher, puis j'ai pas envie de chercher d'ailleurs. Mais il est vrai que quand on a parlé du transfert d'Alexandre Dumas au Panthéon, on m'a demandé mon avis à moi comme potentiel descendant d'Alexandre Dumas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on descend d'une actrice du théâtre de l'Odéon, et cette dame, ne pouvant pas garder l'enfant, parce que ça aurait été un grand scandale en métropole, a laissé cet enfant à un planteur à la Martinique qui adorait le théâtre, qui venait toujours voir cette troupe de l'Odéon et l'entendre. Et comme il ne savait pas comment appeler ce gamin, ben, ce bébé, on l'a appelé l'Odéon, tout simplement. Et si ce n'est pas vrai, ben, c'est une belle histoire. Ça me donne envie, quoi qu'il en soit, que ce soit vérifiable ou pas, d'être digne de cette origine potentielle.
Ça, c'est une chose qui compte pour vous aussi, les belles histoires. Vous aimez raconter des histoires.
Alors ça, je crois que ça vient de la Martinique, parce qu'à la Martinique, il y a la palabre, vous savez. Il y a beaucoup d'origines africaines à la Martinique. Donc, malheureusement, les esclaves qu'on y a amenés. Et on descend dans ma famille en partie. Il y a eu des deux côtés. Il y a eu les planteurs, et puis il y a eu aussi des esclaves. Donc, par exemple, moi, j'ai une sœur qui est nettement plus métissée que moi, plus visiblement, on va dire. Et donc ces mélanges sont très heureux, je trouve, c'est très bien à vivre comme ça. Mais là-bas, il y a la palabre. Et on aime parler. Et justement, cet oncle qui m'a donné le virus de la pêche, ben, il était un grand raconteur d'histoires. Il était chirurgien de métier, mais alors, sa vraie vie, c'était la pêche, et puis raconter des histoires. Et tout le monde l'écoutait, l'oncle Henri, vraiment bouche bée. Et je crois que ça vient de là, moi, mon amour du verbe vient de là. Et en fait, quand j'étais tout jeune, en dehors de la pêche que j'adorais, il y avait aussi l'écriture. Et je voulais devenir écrivain. Ma première idée, quand j'étais gamin, à l'école, c'était d'être écrivain. J'avais d'ailleurs une petite imprimerie. On pouvait tourner une manivelle pour imprimer. Les caractères étaient en caoutchouc, je me souviens très bien. Je me souviens encore de l'odeur, d'ailleurs, de l'encre et de tout ça. Et j'imprimais des petites pages. Je faisais des petits bouts de romans ou un petit journal pour mon lycée, après. Et c'est au fond, c'était l'idée. Mais c'est la musique qui a gagné. Par le fait que à Saint-Omer, j'ai rencontré ce monsieur extraordinaire qui était un peu perdu là, parce qu'il était avec sa vieille maman, il vivait à Coulogne, pas loin de Calais, il donnait des cours à Saint-Omer et à Calais, et comme j'ai été mis entre ses mains, assez ferme, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il m'a poussé, il m'a dit que j'avais une capacité pour jouer du violoncelle qu'il n'avait jamais vue parmi ses autres élèves.
Entre le violoncelle, la pêche, les jeux avec les petits copains du quartier, vous étiez un enfant plutôt turbulent, hyperactif, vous étiez plutôt calme, réservé, à lire chez vous?
Oui, moi j'étais plutôt méditatif, mais évidemment, comme tous les gamins, ben, je m'agitais un peu, je me battais même dans la cour de récréation, et puis quelquefois je tombais, comme disait ma mère, j'étais assez virulent, donc ma mère disait un jour tu vas tomber sur un os, et effectivement je suis allé taquiner un jour un copain, et puis j'ai pris un bon coup sur le nez, et puis après il m'a dit qu'il avait fait de la boxe, il faisait de la boxe même, il était dans un cours de boxe régulièrement, j'ai compris mon erreur, donc on était des gamins tout simplement, mais moi j'étais plutôt calme, avec quelques excursions, avec un autre ami, on allait à la pêche pendant les permissions au lycée, quand on était au lycée Ribaud de Saint-Omer, on devait aller en études en principe, et nous on faisait le mur, on passait devant la loge du censeur qui était quelquefois un peu absent ou fatigué, bon, voilà, il ne nous voyait pas, bref, et puis on partait, on louait une barque dans les marais à Tilk, je me souviens, pas loin de Saint-Omer, 20 centimes de l'heure, et puis on pêchait, et quand il y avait 2 heures de libre, alors là, on était les rois du monde, et on revenait avec du poisson, on savait pas quoi en faire, une énorme brème une fois, ma mère a dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette cochonnerie-là? C'est vrai que c'était pas bon, la brème, on le savait pas encore, bon. Et puis, on a commencé à donner des poissons aux voisins dans l'immeuble d'à côté, enfin, bon, voilà, tout ça. Non, c'est juste ça, la pêche était une grande passion, et quelquefois, c'est entré en concurrence avec le violoncelle, parce que quand il fallait rentrer, on me disait toujours, il faut quitter la pêche, il faut quitter le cours de l'AA pour rentrer à 4 heures de l'après-midi. Mais à 4 heures de l'après-midi, c'est là que, quelquefois, le jour commence à baisser légèrement, l'hiver, c'est là que ça mord le plus.
Thank you.
Clément Rochefort, Les Grands Entretiens, France Musique.
Frédéric Ledéon, que pensait votre mère de la musique ?
Pour ma mère, l'école, l'éducation, c'était quelque chose de primordial. Elle y tenait plus que tout. Et la musique, c'était pas sa passion première. Donc, elle me poussait dans ce sens-là. Et moi, j'aimais bien, évidemment, la littérature. J'aimais bien les lettres et le verbe. J'ai réussi à naviguer entre les deux. Et au lycée de Saint-Omer, je me souviendrai quand même de cette phrase extraordinaire de ma prof de grec, parce que ma mère m'a mis en grec. Et cette dame m'a dit devant toute la classe que je n'oublierai jamais. L'Odéon, vous croyez que c'est avec votre crin-crin que vous allez gagner votre vie?
Si elle savait.
Voilà, elle a dû le savoir après, quand même.
Est-ce que c'est vrai que vous avez dit un jour à vos parents, quand ils n'étaient pas très chauds pour que vous continuiez vraiment dans la carrière, « Si je ne peux pas devenir violoncelliste, je me suiciderai. »
Eh bien, c'est vrai, vous êtes très bien informé. Et je regrette cette phrase, parce que maintenant que je suis père de famille et même grand-père, si j'avais entendu ça de mes enfants, j'aurais été assez effrayé, bien sûr, hein, c'était terrible. Mais j'étais complètement pris par cette histoire du violoncelle et poussé par mon maître, par Albert. Et je voulais vraiment absolument quitter Saint-Omer et quitter le lycée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un jour, j'ai été déçu. Alors, il faut faire attention avec les enfants, faut pas les décevoir. Un jour, j'étais en classe et puis le maître nous a demandé d'écrire des noms de poissons. Ça, c'était à la fin du premier cycle, avant d'entrer en sixième. Et c'était un beau monsieur, il avait les cheveux blancs, il était grand, il était très beau. Et je le respectais beaucoup, jusqu'au jour il a demandé des noms de poissons. Alors les autres dans la classe, ils ont mis la sardine à l'huile, le poisson frit, le machin. Puis moi, évidemment, comme j'étais pêcheur et passionné de ça, j'ai écrit le nom de 50 poissons, que je pourrais encore vous dire aujourd'hui, évidemment. Et j'ai ajouté à la fin le taco. Alors le taco... Personne ne le connaissait, le taco. Moi, je le connaissais, bien sûr. C'est un poisson qu'on trouve toujours sur les côtes, à Boulogne-sur-Mer, par exemple, à Calais, avec des petits barbillons comme ça, qui ne vaut pas très cher parce qu'il n'est pas formidable non plus. Mais si on le mange frais, ça peut aller quand même. Alors, tout le monde s'est moqué de moi parce que le prof a dit, mais c'est un nom local, c'est de l'argot, enfin, je sais pas quoi, c'est du patois. Non, j'ai pas du tout regardé dans le dictionnaire le taco. Et ils n'ont pas voulu regarder, ni le prof, ni mes copains, les élèves. Et donc, ils se sont moqués de moi. Je me souviens, dans la classe, ils ont fait « Ah, l'Odéon, taco, teuf, 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 le taco, teuf, teuf, teuf. » Bon, et moi, ça m'a dégoûté totalement des études. Ce jour-là, j'ai dit « Bon, c'est fini, terminé. » Et sur mon pupitre, je m'amusais avec des règles. Il y avait un pupitre en bois, vous savez, un peu penché comme ça. Puis on le soulevait, on pouvait soulever le couvercle pour mettre ses affaires dedans, la plume. Il y avait de la colle, on avait de la colle blanche, il y en a qui en sniffaient d'ailleurs. Et sur mon pupitre, je m'amusais à croiser les règles. Elles se croisaient comme je voyais les pénis se croiser sur le canal de Saint-Omer. Alors je jouais au petit bateau comme ça, et puis je ne pensais plus qu'au violoncelle. J'ai décroché de l'école ce jour-là.
On va revenir, Frédéric Ledéon, au tout début de votre formation. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, Albert Tétart. C'est lui qui vous a apporté tous les fondements, hein, vraiment, du violoncelle. Mais à quel âge exactement vous vous souvenez, vous êtes dit, le violoncelle, ce sera mon métier?
Alors, c'est vers l'âge de 12 ans, puisque Albert, je l'ai connu quand j'avais 8 ans, quand on est arrivé, j'avais fait un peu de piano avec une vieille dame de la famille, une sœur de ma grand-mère, et puis j'étais pas très passionné, comme mon grand frère d'ailleurs, on chahutait un peu pendant ce cours, avec la tante Yette, elle s'appelait Yette, bon, et on l'embêtait parce qu'elle était un peu timide, on la bousculait un peu, enfin gentiment, comme des gosses font, et on chahutait quoi un peu, on travaillait pas beaucoup. Bon, enfin, j'ai eu quelques notions de piano à l'âge de 5 ans, comme beaucoup de gosses, et puis à 8 ans, alors là, ça a été vraiment le violoncelle, et puis assez sérieusement. Et moi, ça me faisait mal aux doigts au début. J'avais pas encore de cornes, vous savez, à la main gauche. Donc au début, c'est dur. Je n'arrivais pas à accorder l'instrument. J'avais des mains encore trop faibles. C'est ma mère qui n'entendait pas tellement la musique, mais qui pouvait tourner les chevilles. Alors je lui disais, non, ça y est, ça c'est trop bas, le là. Mais alors elle tournait les chevilles et moi je lui disais, ça c'est bien. J'avais l'oreille, mais j'avais pas encore la force pour accorder le violoncelle. Et puis ensuite, voilà, Albert a commencé à trouver que j'avais vraiment des moyens, je me suis plus concentré, et puis il m'a dit un jour, voilà, à 13 ans, tu rentreras au conservatoire. Donc je pense que c'était l'année d'avant, quand j'ai eu 12 ans. Là, brusquement, il m'a mis quelque chose en tête, et ce jour-là, je crois le soir même, j'ai vu à la télévision, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore des concerts à la télévision, à heure de grande écoute, j'ai vu Pierre Fournier jouer le concerto de Schumann. Et je me suis dit, ça, un jour, je voudrais faire ça comme ça. Je voudrais être comme ce monsieur. Et après, moi, j'ai fait un télécrochet dans la région, à Boulogne-sur-Mer. Il y avait quelques enfants qui jouaient des instruments. Et puis moi, j'ai joué un concerto de Goltermann, c'est des concertos d'études qu'on donne au conservatoire. Et puis c'était pas mal. Et puis toute la région m'a vu. Mon professeur Tétard m'a critiqué, évidemment, parce qu'il était très critique. Il m'a dit, oh, tu aurais pu avoir plus de vibrato. Mais mon prof de mathématiques, monsieur Dessin, au lycée Ribaud de Saint-Omer, j'étais nul en mathématiques, et toujours aujourd'hui, bien sûr. Alors là, il a dit, Frédéric, je comprends très bien que vous ne soyez pas passionné par les cours de mathématiques, parce que je vous ai vu à la télévision, et ça, vraiment, c'est très passionnant. Alors j'étais encouragé par le prof de maths, alors que j'étais nul en maths, et j'étais un peu démoli par la prof de grec, alors j'étais plutôt bon, en général, dans les lettres classiques.
Frédéric Lodéon, votre professeur Albert Tétard vous pousse à envisager de poursuivre vos études de violoncelle au Conservatoire de Paris. Et c'est à ce moment-là que vous avez dit à vos parents, je veux aller à la capitale.
Ça n'a pas été aussi simple parce que ma maman était complètement opposée à ça. Vous connaissez l'histoire, passe ton bac d'abord et après on verra. Mais mon professeur Albert Tétard, lui, il poussait tant qu'il pouvait. Et dans ma tête, il a mis plein d'énergie pour que je m'oppose à ma mère, ce qui a été d'ailleurs assez rude parfois. Et finalement, Je me sentais vraiment prêt à rentrer à Paris, mais pas à 13 ans, heureusement ça aurait été trop tôt, mais à 15 ans, et un peu avant, j'ai écrit une lettre au grand maître André Navarra, qui était le professeur. Il y avait Tortelier, vous vous rendez compte de l'équipe qu'il y avait au conservatoire, Maurice Gendron, il y avait Tortelier et Navarra. Et donc j'ai écrit à Navarra, et je lui ai dit, voilà, je voudrais jouer du violoncelle, mes parents ne veulent pas. Bon. Et par accident, ou par une certaine logique dans le milieu, mon père un jour a été convoqué comme membre du jury à Paris. Et le maître Navarra, très imposant, hein, quand même, il avait une stature, et puis il avait une grande carrière internationale, a dit à mon cher papa, qui était très modeste et très discret, « Ah, vous appelez l'Odéon ?» Mais j'ai reçu une lettre d'un l'Odéon, un jeune l'Odéon. Mon père était tout à fait étonné. « C'est votre fils ?»« Ah bah oui. » Alors il dit qu'il voudrait jouer du violoncelle, et Navarra avec sa voix comme ça, parce qu'il fumait trop, donc il avait une voix comme ça un peu cassée. Et il a dit, écoutez, il faut me l'amener, on ne sait pas ce qui va se passer. Si jamais il est bon, il faudra en discuter quand même, mais si jamais il n'est pas au niveau, il va retourner au lycée, puis on n'en parle plus, mais amenez-le-moi. Et un jour, Eh ben, c'est ma maman qui m'a amené avec le violoncelle dans une housse. Et puis, on est arrivé rue de Moscou chez Navarra. Et puis, Navarra a dit, il faut qu'il entre tout de suite au conservatoire. Il n'y a pas de question. Tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé au conservatoire. Le destin, quelquefois, fait bien les choses.
Extrait de La vie parisienne de Jacques Offenbach, interprété par le chœur et l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson, pour fermer ce premier numéro des Grands Entretiens avec Frédéric Ledéon. Prochain épisode demain à 13h sur France Musique, une émission réalisée par Perrine Mingui avec Éric Boisset, Pierre Monteil, Solal Mazran et Céline Tranouvelle. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les références des morceaux diffusés au cours de cette émission sur notre site internet francemusique.fr. Réécoutez et podcastez.
France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.